Salut à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. C'est la cinquième saison du Practice RMC, votre podcast golf de référence pour tout savoir sur les meilleurs tournois du monde, les meilleurs joueurs, les meilleurs conseils, le meilleur matériel. Abonnez-vous à notre chaîne podcast, nos partenaires indispensables pour vous proposer ce programme. Ugolf Blue Green, Callaway et Garmin. Bon golf et bonne écoute.
Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche, au sommaire de ce 13e numéro de la saison, le débrief évidemment du PGA Championship, la surprise Aaron Rye lors du deuxième majeur de la saison, le Britannique a lâché tous les cadors dans le Money Time pour remporter son premier majeur en carrière. Le gros débat, les joueurs ont-ils raison de critiquer ce parcours du PGA Championship? On vous donnera évidemment, et la Dream Team sera là pour donner son avis sur ce monstre d'Aaron Mink, vous le prononcez comme vous voulez. Et puis balance ton golfeur, évidemment, on distribuera les bons et les mauvais points après ce deuxième majeur de la saison. La Dream Team aujourd'hui, Fabien Denoyan, Ugolf Blue Green, notre prof de golf, au Golf Blue Green de Pessac, Ramucho Artola, Romain Fontaine de Garmin et nos éditorialistes, Simon Dutin et Martin Coulon. Salut la team.
Salut les gars.
Salut. Salut à tous.
C'est un hall de gare ici, il y a du monde aujourd'hui, c'est bien.
Il y a du monde, hein. On va pouvoir débattre. On va faire 4 heures à peu près sur ce très beau tournoi. Quel beau tournoi. On dit comment le parcours?
Aaron Mink.
Avec Aaron Rye.
Le premier putt d'Aaron Rye.
Ouh, elle arrive bien.
Oh, elle est belle.
Elle va rentrer. Oh, Aaron Rye qui rentre un putt du bout du monde. C'était Aaron Rye, un dimanche de fer, une journée de feu. À 31 ans, l'Anglais remporte son premier majeur. Aaron Rye décroche le PGA Championship et va soulever dans quelques minutes le trophée Wanamaker.
Le Practice RMC.
Avec notamment ce putt, vous l'avez entendu, de 22 mètres sur le 17. On va y revenir évidemment, ce PGA Championship qui aura déjoué tous les pronostics avec le sacre. Donc d'Aaron Rye, l'Anglais de 31 ans, entre dans une nouvelle dimension avec son premier majeur en carrière, le 44e joueur mondial au palmarès jusqu'ici plutôt modeste, a réussi un finish splendide, moins 6 lors des 6 derniers trous. Les Cador, les McIlroy, les Rahm, les Smith, les Hubberg, les Schauffele n'ont jamais trouvé la magie dans ce dernier tour pour rivaliser avec Rye. Donc tout d'abord, j'aimerais m'arrêter avec vous évidemment sur la performance d'Aaron Rye. C'est vrai qu'on ne l'avait pas forcément vu venir. Simon Dutin.
Non, ben, c'est simple. Je pense que c'est un des vainqueurs les plus improbables de majeur qu'on ait vu ces dernières années, même devant JJ Spawn à l'US l'an dernier. Je pense que personne n'attendait la victoire de Rye. C'est, j'ai vu ce matin, le joueur le moins bien classé, excepté Mickelson, a remporté le PGA Tour depuis Keegan. Keegan Bradley, ça remonte quand même... un petit peu, il jouait à Myrtle Beach la semaine dernière, lui. Il jouait pas avec les grands. Hein.
C'est fini maintenant.
C'est une ode à la patience, à la résilience, au travail. C'est un énorme bosseur, paraît-il. Xander, qui s'est réjoui de sa victoire, a raconté des épisodes à l'Open d'Écosse l'année dernière. C'est un mec qui est sur le green jusqu'à 10 heures avant d'aller à la salle, jusqu'à 11 heures. Qui est capable de prendre des vols commerciaux quand le trafic aérien est un peu perturbé, de faire 300 ou 400 bornes de nuit pour se payer une journée de plus d'entraînement. Donc éloge de la patience. Il est d'extraction modeste. On reparlera. Tu sais, c'est un joueur qui a une histoire derrière lui, un narratif, parce que tu sais, il y a les Iron Cover. Tu vois, il couvre ses fers. On s'est un petit peu moqué de lui. Il a dit c'est pour me rappeler d'où je viens. Qu'on n'avait pas beaucoup d'argent quand j'étais jeune. Il a le double glove, le double gant, donc lui aussi, ça crée une sorte de personnage. Et on reviendra sur l'ensemble du tournoi, la façon dont il a gagné. Mais bon, sur un tournoi un peu fade, en tout cas un dimanche un peu fade, il a quand même mis un joli couvercle avec ce putt du bout du monde et il n'a rien volé à personne.
Ok, qui veut réagir à ce que vient de dire Simon, Romain?
Ben non, moi c'est une découverte, je ne le connaissais pas du tout pour tout vous dire, un petit peu parce qu'il était sur le DP et qu'en effet, je crois qu'il a fait quelque chose au Vaudreuil.
Il l'a remporté.
Voilà, il l'a remporté le Vaudreuil et voilà, moi je ne connaissais pas, mais j'ai apprécié le découvrir sur ce dernier tour-là. Il a l'air très modeste, voilà, c'était plaisant à voir et en effet, sur les 10 derniers trous, il a joué un golf hyper plaisant. Il n'a rien lâché jusqu'au dernier, il a continué à attaquer, franchement, bien.
Alors vous dites que vous ne le connaissez pas beaucoup. Moi personnellement, je n'ai pas votre culture évidemment golfique, mais Aaron Rye, c'est un joueur que je vois depuis plusieurs années et dont j'appréciais le style. Et sur certains tournois, il était pas
trop loin. Il était quand même dans la shortlist de la Ryder Cup. Moi, je vous trouve un peu dur, parce que c'est quelqu'un qu'on voit quand même aux avant-postes sur beaucoup de tournois. Certes, il n'avait jamais fait clutch ou je crois qu'il a une victoire sur le PGA Tour. Maintenant, c'est un mec ultra régulier. Mais moi, je trouve, et pourtant, ce n'est pas en général mon propos, mais ça fait plutôt l'éloge de quelqu'un qui ne tape pas très fort.
Pourquoi tu me regardes en disant ça?
Aussi, mais... Et alors qu'on est plutôt dans une ère où on valorise les mecs qui tapent comme des malades. Mais en revanche, sur des parcours tels que celui-ci, il fallait être plutôt régulier. Et moi, ce qui cristallise pour moi son jeu, son intelligence, son talent, et qui en fait un fantastique vainqueur sur un parcours, on y reviendra, que j'ai suradoré, c'est qu'il met bois 3 au 15. Et c'est le seul joueur qui a mis
le 15, le monstre du parc,
voilà, 550 yards, il se déchirait et vas-y à droite et vas-y à gauche, et là on voit que le mec il réfléchit différemment. Il a aussi un atout, je vais en parler tout de suite.
Il a 215 mètres pour le deuxième coup. Il sait qu'il va être
mais
long.
Il sait qu'il l'a dans le sac et qu'il maîtrise le truc. Et il a un point très fort. C'est qu'il a une femme qui est joueuse de golf professionnelle. Il l'a dit, je ne peux pas la saper parce que je ne suis pas dans leur intimité, mais je pense qu'il parle énormément. Je pense qu'elle lui apporte aussi, à un moment donné, imaginez-vous, un mec comme ça.
Il l'a dit, d'ailleurs. Ouais, il l'a dit, elle me bat souvent. Plus.
Il joue toute l'année avec des mecs qui lui mettent 60 mètres au drive.
Juste, je fais une toute petite parenthèse pour illustrer.
Non,
non, mais à la driving distance sur le PGA Tour, il y a 6 mecs sur 166, je crois, qui drivent moins long que lui, dont sur les 6, il y a Matt Kuchar et Brandt Snedeker quand même. Donc c'est vraiment.
Ça veut dire qu'ils sont vieux.
Bah oui, qu'ils sont un petit peu.
Ça me rappelle un peu la victoire de Brian Harman.
Brian Harman, il a ce coup quand même un peu. Lui, il est vraiment dans un golf que j'appellerais, et moi, romantique à l'ancienne. C'est ce qui me plaît. Le mec, il a tout du romantisme qu'on recherche dans le golf. Il a deux gants. Il couvre ses fers parce qu'il n'avait pas de thunes quand il était gamin. Et quand tu lui offres ses premiers fers, il a dit, mais moi, je veux pas les abîmer. C'est mes fers, je vais les couvrir. Ce vainqueur me plaît. Et justement, j'aimerais bien qu'on n'en fasse pas comme on a. Et je suis le premier à dire depuis le début que le PGA Tour, ça m'a. Je me suis étonné à ne pas regarder la Ligue 1 hier et à regarder ce mec évoluer sur le parcours avec son intelligence, avec son. Il est placide, il fait exactement ce qu'il veut et d'une lucidité dingue.
Ok, Martin.
Ouais, c'est ça qui a toujours été intéressant avec Aaron Rye. Alors moi, ça fait un petit bout de temps que je l'ai dans le scope, puisque j'ai couvert la victoire qu'il avait eue en France sur le Challenge Tour au Vaudreuil. Donc ça remonte il y a un bon bout de temps. Et ce bonhomme-là, il est quand même pro depuis 13 ou 14 ans. Il a fait tous les échelons à l'ancienne. On parle d'un golf à l'ancienne, tu sais, un peu, ça tape pas très fort, ça doit être intelligent. Moi, ce bonhomme-là, c'est marrant, tu le comparais ou tu l'opposais tout à l'heure, Simon, avec JJ Spawn, et je trouve que c'est le même genre de profil.
Non, je parle dans l'attente, on s'est tous plantés avec nos pronos, mais on aurait pu faire plusieurs tours avant de citer Aaron Rye, c'est ce que je voulais dire.
Sur ça, je te rejoins, mais par contre, sur le côté... c'est le genre de bons hommes qui sont amoureux de leur métier, au sens premier du terme, de ce qu'ils font. Aaron Rye, c'est un pur pro de golf. Alors, à l'ancienne ou pas à l'ancienne, mais c'est un gars... je pense que l'anecdote dont tu parlais tout à l'heure de Xander Schauffele, qu'il a vu au Scottish Open jusqu'à 9h, 9h30, un soir en pleine semaine à s'entraîner comme un foufou, moi, ça m'a fait penser à Julien Ken. Tu vois, c'est ce genre de profil-là. C'est des gars qui sont totalement amoureux de ce qu'ils font et au point où ils ont besoin de bosser parce que ça leur plaît, quoi. Ça leur plaît fondamentalement. Et moi, ce qui m'a plu dans ce dernier tour et dans cette fin de tournoi, que je trouvais un brin... ennuyeuse dans le sens où c'était très indécis, c'était très atypique comme PGA, Mais lui, il m'a fait du bien pour ce tournoi-là. Il a fait du bien à cette fin de tournoi parce qu'il était totalement lui-même jusqu'au bout. Il n'a pas cherché à surjouer, à sous-jouer. Il a joué, il a fait du Aaron Rye. Il a fait de la progression logique, de tour après tour, de jour après jour. Et c'est le seul de l'histoire du PGA Championship.
À faire de moins en moins.
T'imagines, à faire 4 tours de suite qui progressent de tour en tour. Moi, j'avais jamais vu ça. C'est incroyable comme stade de se dire que c'est le seul de l'histoire à avoir fait ça.
Je crois qu'en majeur, c'est la première fois depuis 98, hein, même déjà.
En plus,
c'est rarissime.
Ramucho.
Non, faut surtout pas minimiser la victoire d'Aaron Rye. Tout simplement parce qu'il est moins spectaculaire que certains joueurs du PGA, mais en tant que spectacle et performance, faut surtout pas oublier que sur les 10 derniers, il envoie moins 6 alors qu'il est
il est moins 3 après 8.
Et du 10 au 18, il envoie moins 6 avec un finish. Bon, voilà. Et surtout sur la partie du parcours qui était la moins évidente. Donc tout ça pour vous dire que ce garçon-là n'est pas non plus une victoire, n'est pas une surprise à 100%, puisque déjà il avait une victoire due sur le PGA. Donc il a su très bien gérer grâce à cette expérience, il a su très bien gérer le fait de passer en tête, de ne pas trembler et surtout de respecter son plan de match comme au 15 où il est prévu de jouer au bas 3, quelle que soit sa situation au ranking.
C'est ça qui était
ranking.
Très plaisant à voir.
Ouais, je vais peut-être te faire un enchaînement un peu tôt dans tes questions, mais le deuxième grand vainqueur de ce tournoi.
The course.
Et qui sacre.
Ah non, là ça va trop vite là. On va parler du parcours dans quelques instants.
Tu vois, j'en étais sûr.
Restons. Ouais. Tu l'as anticipé, hein. Tu l'as vu. Oui, mais tu te projettes. Mais t'es quelqu'un
trop
qui
visionnaire.
Se projette. Mais t'as raison. On parlera du parcours dans quelques instants parce qu'il y a quelques tauliers du circuit qui ont pu critiquer après le deuxième tour. C'était vendredi soir. Eh bien, ce parcours. Restons sur la victoire d'Aaron Rye, mais aussi sur, parce que c'est vrai que quand on voyait le leaderboard, on se dit, alors on vit pas un tournoi extraordinaire. Mais les cadors sont plutôt là. Et pourtant, ils ont fait pchit.
Mais moi, je trouve... Enfin, sincèrement, c'est depuis longtemps, je n'ai pas vu un... Ce qui était canon, c'est qu'on a rarement vu... Enfin, dimanche matin...
On n'a pas vu beaucoup de spectacles.
Non. Dimanche matin, il y avait 29 mecs voilà, en capacité. De mémoire, je ne me souviens pas d'avoir
le tournoi.
Vu... je sais si je suis vieux, hein, parce que tu allais le dire, je n'ai jamais vu un dimanche de majeur où il y avait encore 29 mecs en capacité de gagner. Moi, j'ai trouvé que c'était un tournoi hyper intéressant et tous les jours. J'avoue, moi, le premier jour, je n'ai pas trop regardé parce que je n'avais pas non plus beaucoup de temps. J'ai vu un peu le parcours, j'ai trouvé ça, c'est vrai, comme ça, sans m'y plonger, un peu chelou. Mais moi, je trouve qu'on a vu un grand tournoi et, okay. Les cadeaux. Parce que Rye gagne. Avec le monde entier derrière lui. Hein.
Mais c'est ce que je dis, c'est pour ça. Il y a Rahm, il y a Rory McIlroy. À un moment donné, il y avait Scottie Scheffler qui a un peu plus disparu par rapport à
Justin Thomas, Justin Rose. Il y avait le monde.
Le retour des mecs cool, le retour des mecs qui s'assoient au fond du bus.
Oui. Ah, juste, j'ai une question. Est-ce que t'as un sponsor, t'as un contrat, parce que non. Comme tu la places à chaque fois.
C'est mon concept, j'ai créé ce concept.
Il a un sponsor avec Nice.
D'ailleurs, je vais écrire au PGA. On va faire des visuels parce que j'y tiens. Et d'ailleurs. Je pense qu'on en reparlera. C'est les copains de Golf Planet pour illustrer ce que tu disais, qui donnaient plein de chiffres. C'était génial là, cette semaine. Ils disaient 22 joueurs en seulement 4 coups avant dimanche, du jamais vu. Voilà, leaderboard le plus
peut-être,
serré.
Mais est-ce que ça rend un grand tournoi? Pardon, est-ce que ça le rend excitant?
Je suis hyper partagé sur ça et on en reparlera certainement quand on parlera du parcours, parce que le parcours a beaucoup joué dans ça, dans ce fait de condenser le leaderboard et surtout le haut du leaderboard de cette manière-là. Ça peut être très intéressant, comme ça peut être parfaitement ennuyé, parce que. On va se le dire, les deux ou trois premières heures du dimanche, c'était un concours de putting entre, 8 et 22 mètres.
Enfin,
et il y en avait 1 sur 12 qui rentrait.
De jeudi à dimanche, ça a été un concours de putting, ouais, Martin, quand même.
Oui, mais sauf que, est-ce que tu veux voir un PGA Championship se jouer sur ça? Je suis pas totalement
sûr.
Non, et
justement, c'est moi... C'est ce qui m'a laissé sur ma faim, parce que jeudi et vendredi, j'étais surexcité, on en a parlé avec Fabien, on s'est parlé sur WhatsApp, et t'avais l'impression de voir un US Open déguisé en PGA Championship. Mais on peut revenir, Rory, il n'a pas touché un fairway dimanche, Scottie, il n'a pas mis un putt, alors que Jon Rahm, il n'a jamais vu le trou, il s'est arrêté trop court. Donc au bout d'un moment, c'est eux qui l'ont perdu. Rye, c'est le seul qui est allé gagner le tournoi, si tu veux.
Quel tournoi, à ce niveau-là, n'est pas un concours de putting?
Je trouve que sur 4 jours, autant ça m'a excité pendant 2 jours, je trouve que sur 4 jours, il a manqué, un peu de variété. Non, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu un coup de tir 3
se poser. Vous êtes tous ici amoureux, vous êtes tous ici, je me trompe peut-être, des golfs britanniques et des links.
Oui, mais...
Donc on pourrait, de temps en temps, trouver ultra frustrant que certains kicks ou certains aient désavantagé les joueurs. Mais le mec qui gagne, le mec qui met moins 6 au retour, il n'a pas joué sur un nuage de malade. Il a joué un golf intelligent où il a placé la balle où il fallait. Est-ce qu'on ne va pas s'arrêter sur son... sans le putt de 22 mètres, les mecs, je vous rassure, il gagne quand même.
Hein. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu avais des conditions parfaites pour avoir un grand spectacle parce que les greens et les fairways.
Les acteurs étaient fermes.
Il y avait du vent et tu as des greens avec des pentes. Mais je trouve qu'avec ces conditions-là, et on y reviendra à les positions de drapeau, je trouve qu'il y avait peu de shots finalement. À part le putting, peu de shots qui étaient valorisés, dans le sens où le parcours, les fairways sont étroits, et souvent, dans le rough, tu peux pas mettre de spin et du coup contrôler un petit peu ton approche. Mais il n'y a pas non plus des endroits où c'est injouable. Tu sais que tu vas prendre 3 coups sur un trou. Donc il y a eu des tonnes et des tonnes et
Smalley au 4
Au 3. Au 3.
3
oui,
ou au 4.
Mais tu vas aller trouver les exceptions si tu les cherches. Mais il y a peu d'endroits où tu es genre out of bounds. Il y a peu d'endroits où tu sais que tu vas prendre double ou triple sur un trou. Paradoxalement, même si dans le rough, tu n'étais vraiment pas bien, souvent, il y avait quand même moyen de sauver le bogey. Et donc, on a vu des tonnes et des tonnes de bogey, mais on n'a pas vu beaucoup d'énormes accidents et pas beaucoup de birdies non plus.
Okay. Merci Simon. Voilà. Toi-même, tu reconnais que ce n'était pas qu'un concours de putting parce qu'il y avait des mises en jeu à tenir puisque les roughs étaient très, très agressifs. Partant de là, il y a une logique. Hein, partant de là, le green devient plus compliqué à attraper. Je ne parle même pas du drapeau. Donc, il y a toute une logique. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, les gars, pour dire que c'était un concours de putting.
Mais sauf que ça n'a pas été le cas. Dans le sens où tu as quand même les meilleurs mondiaux, Ramouch. Tu as quand même les meilleurs mondiaux qui se prennent 3 tours dans la tronche. Et au bout d'un moment, s'ils comprennent ça, ils se disent « Bon, attends, on va quand même essayer de trouver des fairways. » Ce n'est pas le parcours le plus long de toute la rotation du PGA Tour.
Je suis pas d'accord.
Donc, il y en a un qui s'est pas remis en question, là.
Ah ben, il y en a plusieurs qui se sont pas remis en question, dont Rory McIlroy en premier. Et ça, je suis complètement d'accord. Je suis le premier à le foutre au pilori là-dessus.
Mais on fera un petit balance ton golfeur, à mon avis, Rory va revenir.
Vous dites qu'il aurait dû laisser le driver dans le sac et...
Mais il faut
jouer moins souvent le drive. Moi, je suis d'accord avec vous.
Ça cristallise. Enfin, je ne vais pas faire mon balance ton golfeur avant. On a le mec, et on a encore vu le mec, pour moi, le plus doué de l'histoire du golf. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il réfléchit pas à jouer différemment, c'est-à-dire ne plus agresser le parcours. C'est un des seuls mecs qui était en tête hier avec Ram, qui est en capacité de laisser le driver, de prendre le bois 3, de même mettre des longs coups de fer, de rester sur la piste. Il n'a pas un problème de longueur, qui tape un 56, et je vais même plus loin. C'était plus simple de tenir la balle avec un coup de wedge 9 ou 8 qu'avec des coups à la con. L'exemple au 7, je ne sais pas si vous voyez le 7, grand doglet de droite. Si tu mets une prunasse, tu n'as pas de coup. Tu n'as pas de coup parce que tu es en contrebas, tu as un grand bunker, tu ne peux pas arrêter la balle. Il met un coup de fer, il voit le green, il balance un coup de fer neuf. Enfin, je ne comprends pas. Il y a un moment donné, je ne comprends pas. Alors, il se frustre tout seul hein, parce que comment un trou comme le 13, qui peut driver avec son fer 4 ?
Le petit par 4.
Ouais. Il va se mettre à droite complet. Au 16, enfin, voilà, donc je ne vais pas anticiper, bien que je l'ai beaucoup fait là, mais je trouve ça...
Ok, au niveau de la stratégie, tu n'as pas compris.
Tu disais ça faisait l'éloge, la gloire. Ben, ça fait l'éloge et la gloire au binôme, parce que je mettrai le caddie, qui à un moment donné, dans la stratégie, disent « Ok, on ne va pas agresser ce parcours. »
C'est en ça où je reviens sur ce que disait tout à l'heure Simon, ça manque de variété. Et ce parcours-là, il demandait de la variété dans l'approche des trous, parce qu'il y avait des trous qui exigeaient qu'on les agresse. Les petits par 4, il y a un moment, il faut y aller. Par contre, il y avait des trous longs, je pense aux 15. Ce qu'a fait Rai, en particulier le dernier jour, c'est génial de se dire « Ok, je vise absolument une mise en jeu, parce que je sais que le drapeau est relativement court, donc ok, j'aurai un coup de fer 4, mais au pire, je suis en trade green, 2-3 putts, au pire, je prends bogey. »
Il sait que s'il touche le green depuis le fairway, il va faire le par.
Ok, Romain.
Non, moi, c'était un truc, tout à l'heure, on parlait de ça un petit peu, mais en fait, pour moi, c'était soit un tournoi spectacle, soit un tournoi suspense. Et moi, c'est ce que j'ai bien aimé, parce que on était peut-être pas sur le spectacle, mais plus sur le suspense. Et ça, moi, je t'avoue que c'est ce qui m'a animé. Bah, est-ce que c'est ce que j'ai aimé sur ce tournoi-là ?
Mais tu veux que je te dise, moi, j'ai l'impression que ce tournoi, il aurait pu être vraiment d'un côté suspense à mort, mais qu'il a quand même choisi au bout d'un moment, parce que les joueurs ont gueulé, en mode « Ouais, c'est pas normal, les positions de drapeau, là, là, là !»
Ça a rien changé, hein.
Ouais, ça a pas changé grand-chose.
Bah, il aurait pu devenir un vrai tournoi suspense,
oui.
Quoi.
Mais oui, mais parce que,
pour
parce
moi, il l'a été.
Les derniers pins où...
Parce que les joueurs ne se remettent pas en question, je suis désolé, pas suffisamment ce genre de parcours, ils ne se remettent pas en question, ils veulent avoir le dernier mot par rapport au parcours. Et là, le parcours, il dit « Bah écoutez, c'est moi le patron, je suis comme je suis, mais c'est moi qui aurai le dernier mot. »
Je reprends la main parce que vous voulez y aller, alors on reviendra sur Aaron Ryle et adore tout ça, qui ont peut-être à un moment donné eu du mal à convertir notamment des birdies pour se rapprocher de la tête. Le parcours donc de ce deuxième majeur de la saison a fait débat toute la semaine. Après le deuxième tour, plusieurs voix se sont élevées pour critiquer la préparation du Aaron Mink Golf Club, le théâtre donc de ce PGA Championship 2026. Alors quelques morceaux choisis, il y a Shane Lowry qui a déclaré: les spectateurs n'imaginent pas à quel point c'est difficile ici. Rory McIlroy, le leaderboard, avec tous ces joueurs qui se tiennent de si près, on enchaîne tous départ, faire un birdie est très difficile, mais il est peu probable de faire davantage qu'un bogey. Il n'y a pas d'énorme danger, c'est juste qu'il n'y a pratiquement pas d'opportunité d'attaquer. Et Scotty Scheffler, qui a peut-être mis le petit clou sur la table, qui a enfoncé le clou et qui dit: aujourd'hui la plupart des positions de drapeau étaient franchement presque absurdes.
Pourtant il a touché plus de green que Rai ou un Smollett par exemple, tu vois, sur la semaine, Scotty, mais en effet, il a raté un nombre de putts à moins de 3 mètres, absolument.
Donc, les joueurs, est-ce qu'ils ont eu raison de critiquer le parcours ?
Non. Non, non, non et non. Parce qu'on leur propose un parcours avec un défi bien particulier. Mais
qui est le même pour tout le monde.
Eux, ils voudraient évidemment casser le parcours. Ils veulent que leur jeu soit mis en valeur. Là, c'est là où je dis qu'ils ne se remettent pas en question. Vous n'avez pas assez d'avoir, de semaine en semaine sur le PGA Tour, des wedges, des fairneuf au second coup, des drapeaux plantés parce que ce sont des petits clubs. Voilà, c'est un golf qui devient industriel. On s'ennuie à mourir. Alors très bien, c'est du moins 25, du moins 26. Mais là, je suis désolé. Le parcours proposait un défi, proposait une façon de jouer. Les joueurs n'ont pas suivi et ont fait leur petit caprice en disant c'est injouable, c'est indigne de notre standing. Non, mais... je ne suis absolument pas d'accord avec ça, mais absolument pas.
Oui, mais alors moi j'entends, mais en fait tu peux t'interroger sur est-ce que le parcours ou est-ce que la préparation du parcours, parce que c'est deux choses différentes.
Non, mais moi, les gars, content, c'est un majeur.
Je suis content, ouais, mais voilà. Justement, je suis content que tu puisses disputer des majeurs. Le PGA Championship, des quatre majeurs, c'est celui qui se cherche une identité. Voilà, tu prends les trois autres, il y a du caractère, tu peux caractériser. Voilà, l'US Open, c'est le vrai test de golf ultime, ça, c'est là pour les rendre fous. T'as la tradition The Open, t'as le Masters qui est un truc à part. Bah, l'USPGA, tu sais pas bien, ça, c'est jamais le même type de parcours, ils se cherchent une identité. Et donc, t'as l'impression qu'en effet, ils ont voulu dire, bah voilà, on va se dire que c'est difficile à gagner, se rapprocher, je le disais un petit peu, de l'US Open. Je suis content que ce soit un parcours, et encore, il faut se souvenir, une semaine avant le début du tournoi, on disait, les mecs qui drivent le plus loin vont gagner, auront l'avantage, oui, sur absolument. Ce parcours. Et ben, je suis content qu'un mec comme Aaron Rye, qui est un des moins longs du circuit, puisse gagner, que ça permette de gagner un majeur. En revanche, c'est vrai que j'étais très excité le jeudi, vendredi. Tu as l'impression, je ne sais pas si vous avez joué à l'épervier quand vous étiez jeune, tu avais l'impression que c'était l'épervier, quoi. Les mecs qui traversent un champ de mine et à chaque tour, tu en as un qui saute ou deux ou trois. Allez, ciao, éliminé. Et il y avait vendredi la peur. Les mecs qui sortaient des greens, ils faisaient le par et il y avait de la peur sur leur visage, quoi. Tu sentais qu'ils étaient en souffrance. Le seul truc qui m'est venu après le samedi et le dimanche, c'est que, encore une fois, tu as des fairways fermes, des greens fermes, tu as du vent, tu as des slopes sur les greens. Tu te dis, bon, peut-être qu'ils ont un peu exagéré sur les positions de drapeau. Tu peux imaginer qu'éventuellement, le jeudi et le vendredi, tu puisses faire ça un peu moins difficile. Et tu vois qu'il y a une sorte de graduation dans la difficulté. Tu vois, c'est-à-dire,
mais ils l'ont
jeudi,
fait.
Vendredi, bah, moi, je trouve que c'est
resté. Le samedi,
que les positions. Ouais, le samedi.
Ils ont avancé.
Non, mais attendez.
Je trouve que c'est resté très, très difficile.
Et surtout, excusez-moi.
Alors, juste pour terminer, je pense que c'était plus difficile jeudi et vendredi et que c'est dommage de commencer de façon aussi hardcore. Non, mais... j'aurais préféré que ce soit comme ça juste le dimanche ou juste le samedi et le dimanche.
Et une précision, et je te donne la main, Fabien, entre le jeudi et le vendredi, il y a eu le coup de gueule des joueurs. Le samedi et le dimanche, le parcours était beaucoup moins long.
Oui, mais pas moins difficile dimanche. Hein.
Je dis pas moins difficile, mais en tout cas, ils ont peut-être un peu ajusté le parcours après ces propos, non ?
Ouais, moi, je goûte quand même très peu que les mecs se plaignent. C'est à eux de s'adapter.
Complètement.
Et puis, que ça soit surtout des Américains. Jurisprudence Ryder Cup, parce que à chaque fois que l'Europe a préparé des parcours, parce que par refaire, le capitaine peut préparer le parcours, il a toujours préparé des parcours justement pour pénaliser le. Et ces joueurs-là, ils sont aguerris. Puis, vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont pas reconnu le parcours. Voilà, la seule chose qu'on peut dire, et je crois que Scotty a fait la remarque en citant Oakmont, il a dit c'est un peu comme Oakmont, mais Oakmont c'est naturel, alors que là c'est des pentes artificielles. Bon, une fois que tu as dit ça, tu as envie de dire mec, va prendre un pété. Parce que ça sous-entendrait que Rai a gagné un peu par hasard et machin, mais Rai, il les a pliés. Et puis tu parles des mecs cool au fond du bus. Alors lui, il est encore beaucoup plus cool parce qu'il conduit le car. Et que, le parcours, moi, je trouve, j'adore ce genre de tracé. J'adore cette difficulté de rough. Parce que ça propose justement quelque chose qu'on ne voit pas le reste de l'année. Enfin, tu as joué Augusta, Martin. Est-ce que vous avez déjà entendu une seule fois les mecs se plaindre de la difficulté des pentes, de la roule, machin d'Augusta ? Personne ! Et pourtant, tous les ans, il y a des mecs qui prennent 3 putts, 4 putts, qui sont à la rue. Il y a des trous comme le 2 à Augusta, dernier tour, du Masters, le drapeau il est toujours à droite. Tu vises au milieu en espérant que la pente revienne. Le 7... tu tapes derrière pour qu'elle spin parce que tu sais qu'il y a. Le 10, tu tapes à droite. Enfin, je peux vous citer tous les trous. Et là, personne ne dit rien. Oui. Donc, stop. C'était un super parcours de golf. Je trouve que c'était une édition qui était ultra bien organisée. Et moi, qui m'a donné envie, pour une fois, de regarder le golf jusqu'à 1h du mat, sans m'endormir, en oubliant la Ligue 1. Voilà, personnellement,
en tout cas,
ça a donné
un peu de chien à cette USPGA qui, d'ordinaire, est le moins excitant des grands chelems.
Avant de donner la main à Martin, une petite parenthèse. Toi qui es fan du FC Nantes et toi qui as joué là-bas,
t'étais
facilement très vite devant ta télé, hein, parce que le match a été arrêté très rapidement.
C'est pas faux.
Ce qui m'a plu dans ce PGA, dans la manière dont ce parcours a été préparé, c'est que ça remettait au centre d'un jeu qu'on a du mal à bien comprendre, la valeur de ce que c'est le par. Alors normalement, c'est l'US Open qui remet ça au centre du game, mais genre vraiment hardcore, quoi. Le par, tu fais un par, c'est la mission impossible, quoi, limite. Et ce qui était d'autant plus, à mon sens, et je pense au sens des joueurs qui ont critiqué le parcours, difficile à comprendre, c'est que normalement, le PGA Championship, c'est pas le plus accessible de tous les majeurs, mais c'est celui où, historiquement parlant, ça gagne bas, quoi. Tu fais moins 12, moins 13, moins 14, il n'y a pas de sujet, quoi. Les parcours, normalement, ils sont un peu plus ouverts, avec des grands guillemets, ça reste des parcours de majeurs, exigeants, etc. Là, ça leur a fait un peu bizarre, parce que justement, il fallait réfléchir un petit peu plus sur les mises en jeu, il fallait réfléchir un petit peu plus, beaucoup, sur la patience de toucher les zones et de pas s'exciter. Il y a certains drapeaux, oui, il y en avait peut-être 2 ou 3 vendredi qui étaient complètement débiles dans le placement, mais bon, comme dans beaucoup de tournois, ça arrive. Et c'était de savoir être patient, quoi. Et la victoire d'Aaron Rai, c'est ça. C'est la victoire d'un mec qui a su être patient, qui a su rester lui-même, qui a su prendre le défi qu'on lui promet et qui a su s'adapter à un PGA Championship qui était peut-être un peu inhabituel, un peu bizarre de ce point de vue-là, mais qui était hyper intéressant parce qu'il offrait un vrai test de golf complet, parce que le par avait sa vraie valeur, tu vois.
Exactement, ils veulent tous un vrai test de golf, mais à condition que la balle puisse s'arrêter sur les greens, à condition que la pente puisse ramener la balle vers le drapeau, à condition qu'on puisse jouer des lignes agressives. Et là, ce n'était pas le cas cette semaine. Voilà. Donc, ils sont en totale contradiction avec ceux qui prônent toute l'année. Donc là, je suis, encore une fois, voilà, le parcours, les amis d'accord, il y avait un test qu'il a proposé, ils n'ont pas adhéré, mais point final.
Moi, encore une fois, Ramoncho, je ne veux pas insister, j'ai l'impression...
Et encore une fois, tout sauf confortable. Un tour des grands chelems, c'est tout sauf confortable.
Non, mais
c'est un vrai défi, tu vois.
Là où je m'appuie sur ceux qui connaissent, parce que en effet à la télé c'est compliqué. Moi j'ai eu l'impression, quand je vous entends parler d'Augusta, souvent vous dites qu'avec ses greens et les pentes, bon, déjà les joueurs les connaissent parce que c'est le même parcours.
Ça joue énormément.
Vous parlez,
ça.
Oui, mais et vous ça parlez souvent de la zone qu'il faut jouer. Moi j'ai eu l'impression que sur certains coups de fer, les bons shots n'étaient pas récompensés. Alors, encore une fois, il y a les conditions parce que les greens étaient ultra fermes.
Il y avait de se mettre loin. Bah, c'est ça le problème.
Oui, parce que
Pour eux, ça faisait bizarre. Tu n'as pas vu à 20 mètres du trou.
Même avec le spin, on a vu quasiment aucune balle se mettre donnée, tu vois, ou être proche de rentrer. Et ça, ça manque un petit peu pour le spectacle. Pour le, tu vois, dans un majeur, tu as envie de voir un mec qui va se mettre eagle donnée sur un par 5. Et tu vois, tu as l'impression que parfois, les coups en ligne, avec les pentes démoniaques, les doubles pentes, triples pentes, les dômes sur les greens, tu as l'impression que, bon, finalement, même si tu tapais un très bon coup depuis le fairway, tu ne pouvais pas te mettre donnée. Alors que, et on l'a dit, Yon Ram, il a dit, même quand la balle elle est bien laillée dans le rough, tu peux pas l'arrêter, c'est un enfer, on peut pas se rendre compte avant de le jouer. Mais et du coup, finalement ces roughs ils étaient terribles, mais je te dis,
ce jeu qui était standardisé.
C'est le problème du rough, Simon.
Oui, c'est le problème du rough, mais encore une fois.
Ils ont arrêté sur le fairway. Voilà.
Ah, mais là, je suis tout à fait d'accord.
Putain, il y avait du rough, les gars.
Ouais, c'est vrai. Quoi.
Puis le rough était difficile.
Non, je dis juste que ça a nuit un peu à la dramaturgie, au spectacle.
Il y avait des bunkers?
Ah ben souvent, je pense qu'il valait mieux être dans les bunkers autour des greens que dans le rough au bord du green. Ouais.
Ok.
Ils sont un peu vexés, c'est tout.
On a compris votre avis sur le parcours. Moi, j'aimerais juste rapidement revenir sur la performance de Rai et peut-être me dire le moment, selon vous, où il a gagné ce tournoi.
Bah, l'eagle du 9.
Voilà. Mmh. L'eagle du 9.
C'est ce qui lui permet de revenir à moins 5.
Bah, là, il repasse. Ouais, c'est ça.
Il était moins 3, il revient moins 5.
Je crois qu'il est parti à quoi? Moins 4 ? Moins 3, je ne sais plus à combien il part sur le dernier.
Parce que les premiers 9 trous, il fait yo-yo.
Moins 4.
Il est parti à moins 4, donc là, il est repassé sous le par pour la journée, et c'est ce qui a lancé son parcours. Après, il fait 4 heures
d'hiver. Moi, c'est plus une solidité globale, mais sur un moment où, justement, ça commence à devenir chaud, et c'est le money time pur et dur entre le... Je dis une grosse bêtise, entre le 10 et le 13 ou le 14, où il enchaîne un ou deux birdies, mais surtout il y a 2-3 putts pour par qui sont. Mais il y en a ou deux qui sont. Le 10, mais
le
10 ou deux.
Le 10 sur par, c'est un birdie en fait.
Ouais, c'est ça, t'as 1m82 mètres. Puis et ils sont, tu sais, en plus, on voyait bien avec lui, il a des lignes tracées hyper bien sur ses balles. La balle, elle roulait pile en ligne. C'est pas des putts qui rentraient backdoor de par le Velux ou quoi. Ok, c'était franc, c'était simple, c'était propre, c'était. Il n'y avait pas de sujet.
Ouais, mais
quoi.
Moi, c'est je trouve. Ouais, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis parce que c'est un des seuls que tu voyais ni frustré, ni agacé.
Ah, il était flatline.
Il a pas changé son
calme absolu.
Il était dans son truc et ok, j'ai
fait juste à la fin, tu le voyais un peu respirer, un peu fermer les yeux, un peu genre, ouah, il se passe un truc quand même de dingo, mais normal. Mais c'était le seul
moment.
Le putt du 17, il a beau être loin, quand tu le vois striker, tu dis, il a mis une énorme charge à cela. Hein. Moi, j'ai cru qu'il allait...
T'as vu l'entrée 18 quand même. Vous avez vu le drive qu'il met au 18.
Ouais, mais c'est ça, en fait, il a pas joué petit bras, il est allé jusqu'au bout. Et le drive du 18, il faut le sortir, il est en pleine piste en plus. C'est ça qui est monstrueux.
Puis moi, j'ai bien aimé ce qu'il n'avait pas réussi à faire depuis le début.
Mais après, sur les droits,
quand tu sais que tu peux gagner un match, enfin, je suppose que tu dois avoir les mains qui tremblent.
Il l'avait peut-être gagné.
Non, on peut pas t'en parler.
Il l'avait peut-être gagné avant. C'est peut-être pas là qu'il le gagne. C'est les autres qui l'avaient déjà perdu, peut-être. Mais en effet, quand tu le vois prendre le fairway au 15. Le gars part au 15, tu te dis bon, c'est terminé, la rideau.
Ouais, mais c'est même ses réactions à ses coups. Tu vois la réaction au putt du 17 qui est quand même. Un peu totalement improbable. Tu rentres pas 22 mètres sur un green du 17 en PG alors que tu as ton premier. Enfin, c'est...
Mais je pense qu'il est dans un autre monde là.
Ouais, mais tu le regardes, il est à la fois incrédule.
Ouais,
comme
a dit Fab, il a quand même de l'avance qui.
Ouais, rien, mais, non, mais il est jamais. Moi, je l'ai jamais vu faire une galipette sur le.
Non, mais au-delà de faire une galipette, tu le vois, il voit le putt partir, elle est pas mal, tu vois, et puis tout le monde qui commence à s'exciter, la balle qui rentre, il regarde son caddie, genre, t'as vu la rentrée? Oh bah c'est cool, on va au suivant. C'est genre, il n'y a pas de d'emballement, il n'y a pas de...
Non, mais même dans ça, je trouve qu'il est classe, il est sobre, il est dans la victoire, quand il est allé chercher son trophée. Moi,
c'est,
je dis,
c'est quand même un joueur qui a
toujours été président.
Humilité, c'est vrai, on adore.
Mais c'est,
les
c'est quand même un joueur qui a toujours affirmé dans beaucoup de ses interviews, et pourtant il en a gagné des titres, hein. il en a 9 maintenant en tout, sur tous les circuits confondus depuis qu'il est passé pro.
8.
Et il a jamais dit, moi je cours après tant de tournois, tant de majeurs. Lui, c'est vraiment, j'aime le fait d'être golfeur pro, c'est mon truc. J'aime ça, en fait.
Ok, est-ce que ça veut dire que ça lui offre maintenant des perspectives, ou c'est beaucoup trop tôt pour le dire, parce que c'est déjà arrivé des one-shots, mais il n'a que 31 ans, ça fait quand même plusieurs années qu'on le voit sur le PGA Tour, ça reste un très bon joueur de golf, il était avant ce tournoi 44e joueur mondial. Donc c'était
un gars qui était dans les petits papiers de Luke Donald dans la précédente sélection de Ryder Cup, donc il est déjà dans le radar, et que ce bonhomme-là plante un majeur c'est étonnant dans les faits, mais quand tu vois la progression du bonhomme, quelque part, c'est toujours facile à dire une fois que ça a été fait, mais, pas si étonnant que ça. Et pourquoi pas un autre, tu vois ?
Tu peux jamais savoir quel effet ça va avoir, quand tu vois les avantages qui vont avec la victoire, il a 5 ans d'exemption PGA Tour, 5 ans d'exemption sur tous les majeurs.
C'est
pratique à la cantine. Mais je veux dire, il va pouvoir dormir sur ses deux oreilles, ou ses deux gants d'ailleurs.
Vu qu'il dégage, cette sérénité, cette sagesse, je pense qu'il va très naturellement encaisser son premier
titre
du Grand Chelem.
Moi, je dis qu'on
est
sûr, il va pas changer son
style. Sa routine, sa vie de tous les jours. Je pense pas.
Le problème, c'est qu'on a pas mal de jurisprudence dans l'autre sens. Ouais. J'en sais rien. En tout cas,
il a l'air bien armé, en tout cas.
Je vais faire plaisir à Simon.
Le bus.
Non, mais il est pas passionnant. Enfin, je veux dire, t'arrives au départ du 1, n'importe quel golf, s'il a passé deux gants et que tu lui dis bonjour monsieur, vous jouez à quelle heure ? À 10h10, ça va très bien, on joue ensemble.
Avec Jean-Bernard et Patrick.
Votre index. Donc, non, mais c'est vrai, il est un peu monsieur tout le monde. Mais à la différence d'un Scottie Scheffler, qui, je te l'ai toujours dit et que je continue de le dire, dégage pas énormément de choses, je trouve que le mec, il a la classe, quoi. Tu vois, il a une classe un peu anglaise. Ça tombe bien, il est anglais. Pourtant, il a des origines indiennes et kenyanes, je crois. Mais il est marche droit, il a la classe, point. Et moi, j'ai envie de le revoir.
Il est beau, il est baraqué, il est classe, il est humble. Bon, il a tout ce qu'il faut. Et maintenant, il a planté.
Ok, voilà ce que l'on pouvait dire sur ce tournoi d'Aaron Rye. Maintenant, on va passer aux autres qui n'ont pas réussi à remporter ce PGA Championship 2026. C'est le Balance Ton Golfeur.
Le Practice RMC.
Courrette !
Balance, balance !
Mais tu l'emporteras pas dans le trou !
Ça y est, il l'a acheté !
Allez !
Tu l'as acheté !
Balance ton golfeur.
Alors, vous avez tous choisi un golfeur pour en dire du bien si vous avez envie et si vous vivez dans le monde des bisounours, ou si vous voulez en dire du mal. Et ça, évidemment, on préfère dans le Practice RMC. Alors,
qu'on est des méchants.
Quel golfeur vous avez choisi ? Je passe dans les rangs et ensuite je viendrai vous voir. On a bien compris, Fabien Denoyan ?
Rory McIlroy,
ok. Romain Fontaine ?
Scottie Scheffler,
ok. Comme ça, on a les deux, les deux meilleurs. Martin Coulon ?
Moi, je suis toujours à la bourre, donc j'aime beaucoup Garrick Higo.
Ah oui, qui est arrivé en retard lors de son premier trou et il a pris 2 points de pénalité, tu vas nous raconter ça. Ramucho Artola.
Le retour dans l'enfant prodigue, Cameron Smith.
Ok, Cameron Smith qui aurait pu s'imposer hier, tu as bien raison. Et Simon Dutin ?
JT.
Ok, Justin Thomas qui a aussi, et ça aurait été incroyable qu'il gagne alors qu'il avait fini depuis 4 heures ou 5 heures.
C'est ça, il aurait gagné.
Ok, tu vas nous en parler. Bon, on va commencer, on a commencé la discussion, allons-y sur Rory.
Rory.
Tout le monde a sa serviette autour du cou. Qu'est-ce que dire ?
Que dire d'autre ?
Comment tu peux être aussi doué ? Comment tu peux être aussi fort ? Comment ce tournoi
peut lui échapper ?
Peut lui échapper. Mais c'est exactement ça. Le mec, il gagne le Masters, il joue plus. Il a fait un tournoi la semaine dernière, mais un peu en roue libre. Pour s'échauffer les genoux et les poignets. Il démarre avec un 74, avec une conférence de presse assez brève. Hein. Comment tu penses que s'est déroulée ta partie aujourd'hui ?
Shit.
C'était plutôt bien résumé d'ailleurs. Ensuite, le mec met 2 fois sous le par, moins 4, moins 5 de mémoire. Comment le dimanche, alors qu'encore une fois, moi je le voyais, mais sûr de gagner, enfin sûr d'être, comment il peut vendanger tactiquement cette partie de golf. Donc moi, j'aimerais qu'il me réponde, qu'est-ce qui te passe par la tête à un moment donné, avec le talent que tu as, avec la réserve que tu as, avec le putting que tu as cette semaine, parce que lui, il en a fourré des putts, hein, comment tu peux passer à côté. Donc, j'ai pas envie de l'accabler, j'ai presque envie de l'aimer parce que il a pas fait son sale gosse. Alors, il a fait un peu sa pleureuse sur le parcours, mais en le critiquant, mais il a pas fait son sale gosse. Voilà, moi j'ai plutôt une question, donc je voudrais balancer cette question. Donc Rory, explique-moi, qu'est-ce qui te passe par la tête alors que tu peux être le premier depuis 2015-2016 à gagner les 2 premiers levées du Grand Chelem? Et pourquoi pas faire un truc incroyable d'aller chercher ce qui ne s'est jamais fait au golf ? Comment tu peux vendanger ce dernier tour. Mais okay. Pas par le jeu.
Il le perd où? Il le perd pour jeu. Toi Il le perd sur le 13
ah. Il le, mais bien, non, il le perd sur le 9.
Où il ne fait, fait pas birdie.
Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Et encore une fois, au lieu de driver loin, il peut mettre la balle avec un bois 3 sur le... C'est pas un problème de longueur. Voilà, c'est les questions que je me pose et auxquelles j'aurai certainement jamais de réponse, mais je trouve ça dommage.
Si je puis me permettre...
tu peux te permettre,
Je pense qu'il, mathématiquement, qu'il perd ce tournoi déjà avec son 74 du premier
mais
tour.
Mais non, il est dedans, Ramouch, il est dedans.
Non mais d'accord, mais à l'arrivée, quand tu calcules, effectivement, 4 points.
Ah, tu vas pas faire comme les mecs qui jouent... pardon, j'allais être...
Non,
mais s'il
n'avait
pas fait 74 le premier jour, puis s'il avait rentré le putt là...
Non, je suis pas d'accord.
Oui, mais enfin, c'est son pire... Je dis, c'est son pire score pour un premier tour de PGA depuis 2016.
Pardon, juste un truc. Et ça, personne ne le saura jamais. Mais quand t'as Rory, qui commence à remonter, il fait le birdie au 9... Il arrive en haut, les joueurs, par définition, quand tu vois les leaderboards, parce qu'on ne va pas m'expliquer qu'ils ne les regardent pas, c'est faux, tu vois Rory McIlroy, que tu sais pertinemment qu'il y a des trous qui sont... Parce que le retour, il était fabriqué pour lui. Fabriqué pour lui. Donc, il le perd le premier jour, mais il peut le gagner mille fois.
Il peut, mais il part déjà avec plus 4, un handicap colossal par rapport aux...
Peut-être un handicap colossal, mais justement, il joue en conséquence le vendredi et le samedi. On pourrait te répondre par l'inverse. Il joue en conséquence pour ramener et pour être en contention.
Non, mais
pour
match de foot, t'es mené 2-0 à la mi-temps. À la 55e, t'es à 2-2.
Donc,
tu peux encore gagner le match.
Il fait 67 et 66, je suis désolé, il adapte par rapport à ce que tu peux dire, il adapte son jeu par rapport au parcours. Je ne suis pas d'accord que tu dises, ce sont ces mises en jeu, comme ça a été dit, qui l'ont systématiquement mis en rouge.
Eh bien, tu dis un truc très vrai, je vais te donner ma réponse. Le vendredi et le samedi, il n'a rien à perdre. Donc, il y va, ça passe, il fait 2 super scores. Le dimanche, il ne peut pas être dans le même état d'esprit d'attaque. Donc, il doit gérer. Donc, ma question, c'est pourquoi, et c'est quand il a besoin de gérer, pourquoi il n'est pas au rendez-vous.
Ok, qui voulait prendre la main, et puis après, on passera sur un autre joueur.
Scotty.
Attends, Scotty, tu veux partir sur Scotty Scheffler? Je voulais réagir à Rory.
Très rapidement sur Rory, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé dans ce dernier tour, c'était... l'attitude. Alors oui, comme tu le dis très justement, vu que c'était très serré et que c'est un carnassier, que c'est un grand habitué des majeurs, il se dit bon ok, je vais pas faire le mongol sur les 9 premiers ou les 10 premiers à faire n'importe quoi et me foutre hors de contention tout de suite, je vais gérer comme je peux. Mais il a géré, au bout d'un moment ça craque quoi. Ce bonhomme là c'est un attaquant né, et tu regardes la réaction qu'il a quand il prend son bogey au 13, tu vois c'est pas du tout le même regard. Il y a un moment c'est bon, et maintenant, justement, j'ai tout à gagner. J'ai plus rien à perdre.
Il fait birdie au 14.
Et c'est là où je me suis dit, oh, c'est ça que j'ai envie de voir, moi. Mais c'est ça que j'ai envie de voir quasiment dès le 7 ou le 8. Tu vois ce que je veux dire? C'est Rory McIlroy, le bonhomme. Toi, c'est pas un pimpin lambda, quoi. C'est le bonhomme, t'as l'impression que c'est une Ferrari qui est restée en seconde pendant tout le dernier tour. Et en faisant 31 putts, tu peux pas gagner un PGA Championship. C'est impossible.
Et a priori, pas en touchant 4 fairways sur 14.
Ok, très bien. Le numéro 1 mondial, Scotty Scheffler. Tu voulais le balancer.
Ouais, en fait, je peux reprendre exactement ce qu'a dit Fabien là, à l'instant. C'est-à-dire, Scotty, comment tu peux être aussi doué? Comment tu peux être aussi fort et ne pas gagner ce tournoi? Voilà, exactement comme toi. En fait, j'adore ce mec, il me fascine en fait. Et j'aimerais le revoir gagner parce que j'aime bien ses enchaînements. Puis il est numéro 1 mondial, il y a du panache là-dedans et tout ça. Mais son putting, il m'a frustré toute la semaine. Je me suis dit en plus, souvent il partait mal là, ces derniers tournois. Là, il fait un premier tour correct. Il est dans le. Bah, il est pas mal.
Mais il est co-leader. Il fait 13 fairways sur 14.
Donc, il part très bien. Et là, je me dis super. Le tournoi, il est bien démarré.
Laisse-moi. Qu'est-ce qu'il a contre Scotty, celui-là?
Mais non, justement. Tu vas te calmer. Et après, je vois les putts, ils rentrent pas. Sur le dernier tour, c'est pareil. En fait, les lectures de pente, elles sont pas forcément tip-top. Et ça, et en fait, ça me frustre parce que j'avais envie de le voir gagner. Et j'aimerais qu'il regagne là prochainement. Donc voilà. Un peu comme toi, finalement, je suis un peu...
On a quand même l'impression qu'il s'emmerde sur le parcours. Ouais, wow. Non, ça ne vous donne pas...
C'est son style.
Je pense qu'on a trouvé le style de parcours qui est quelque part Scotty Scheffler proof, ouais. Au sens... Wow. Sur 4 tours, j'entends, hein, pas sur un tour. Sur 4 tours, puisque ça use c'est un parcours qui use ce genre de joueur. Alors ok, il joue ses zones, ça c'est son truc. Mais sauf que derrière, il faut se les gaufrer, les putts de 8, 10, 12, 15 mètres. Et être
c'est même pas ça qu'il l'a planté, souci, hein, c'est les putts beaucoup plus courts que ça.
C'est les putts de 3 mètres, parce qu'au green, je crois qu'il fait 16 sur 18, 16 greens sur 18, je crois, sur le dernier tour. C'est énorme. Et juste, il a les lectures de putts qui ne sont pas forcément idéales, les putts qui ne rentrent pas de chance. Enfin, voilà, il n'y a rien qui est aligné, c'est dommage.
Ouais. Ok, voilà ce que l'on pouvait dire sur Scotty Scheffler. Un autre qui a failli gagner, je passe à Cam Smith. On viendra à la fin évidemment sur cette histoire assez insolite du monsieur qui arrive en retard. Cam Smith, pourquoi Ramon Chouard?
Pourquoi? Parce que je suis très heureux de son retour et je suis d'autant plus à l'aise d'être satisfait de le revoir au plus haut point, au plus haut niveau. Mm-hmm. Est-ce que j'étais le premier à le matraquer sur sa carrière qu'il avait prise via le livre et puis sa disparition des radars puisqu'il se contentait de jouer sur le livre, mais il n'y avait aucune recherche de performance. Et je trouvais ça vraiment dommage pour un type aussi talentueux qui avait plié bagage de mon point de vue. Mais son 64 hier et sa 7e place est le signe, je pense, qu'il retrouve la confiance, l'envie et un jeu suffisamment solide pour tenir 4 tours. Et de toute façon, il y a eu récemment, il y a 15 jours, il y a une preuve comme quoi il voulait vraiment reprendre sa carrière en main. C'est avec son changement de coach historique, hein, le coach qu'il a suivi depuis petit, Grandfield, qui l'a remplacé par le fils de Butch, Clone Harmon. Et donc là, c'est un signe que ce joueur veut reprendre sa destinée sportive golfique en main. Et on ne peut que s'en réjouir. Voilà, donc parce que reste un joueur très apprécié. Du public et de ses pairs, voilà. Donc voilà, un dimanche sans Cameron Smith, ça manquait puisqu'il avait quand même raté 7 cuts d'affilée quand même, 7 cuts dans majeur d'affilée. Donc ça change, ça donne un parfum d'authenticité, de
T'as raison, on était tous très heureux de le revoir. Voilà. Alors moi je me suis surpris à me dire ça fait du bien qu'il soit là.
Mais en revanche,
et malheureusement il y a toujours.
Le mec,
comment ça malheureusement? C'est ce qui fait, aussi qu'on aime ce mec, non?
Non mais putain, deux trois fois il a fait enrouler José, il a fait il avait du mal à toucher aussi les fairways.
C'est sur le 15 je crois, c'est le par 4 monstrueux là. On dirait moi, il est parti direct à gauche de la gauche. Ah mais à gauche de la gauche.
Mais c'est vraiment le personnage qui caricature, j'allais dire, sans être méchant, le golf instinctif. Et ça, Dieu sait s'il nous le manque.
Ok, et ça fait du bien.
Voilà,
ok, ça fait
vraiment bien.
Ricky Fowler pour Simon Lutin.
Ah non, pas là, non.
Ah non,
vous êtes trompé de numéro.
Pardonne-moi, Drouet. Justin Thomas.
Non, Justin Thomas, ta décharge, je comptais parler de Ricky, mais ça embêtera Muncho. Donc, JT, Justin Thomas, je ne suis pas dans le train Justin Thomas. Moi, ce n'est pas vraiment un de mes joueurs favoris, mais j'ai souvent...
Il n'est pas au fond du bus.
Non, lui, il a sa place au fond du bus, évidemment, parmi les mecs cool. Et justement, j'y viens, il fait T4, je crois que c'est son premier top 10 en majeur depuis
On va peut-être expliquer que T4, ça veut dire égalité à la quatrième place.
T4.
Okay. Hide 4.
Égalité à la quatrième place.
Ça veut dire qu'il est 4 heures et qu'il faut boire un thé.
Lui, il a dû en boire des thés, par contre, en 4 heures.
Il envoie 65 dimanche, je parle sous votre
contrôle.
Et Martin le rappelait, il finit au clubhouse 2h30 avant les autres. Les journalistes lui ont dit, il y a des erreurs à ne pas commettre quand on attend aussi longtemps. Il a dit, pas s'envoyer 5 ou 6 bières en se disant qu'on a perdu. Parce que, il a remis le nez à la fenêtre parce que je crois que c'est le RBC là, qu'il a gagné cette année. Celui où tu as la belle veste, tu sais, avec l'imprimé écossais.
L'année dernière.
Ou deux ans déjà. Ça fait, il n'a pas gagné cette année. Bon,
non, c'est fils.
On y a cru une partie du dimanche. Et même si je suis pas fan de ce joueur, c'est bien de revoir ce mec en haut des leaderboards parce que je comprends pas pourquoi il fait pas plus d'émules. Lorsqu'il rentre des bons coups, il se passe quelque chose quand ce mec est sur le parcours. Voilà, il y a une sorte de tension. Il est capable de créer des momentum avec la foule. Il célèbre ses bons coups. Je pense qu'il crée quelque chose pour le public. Je pense que le golf mondial, le spectacle, a besoin de ce mec-là. Et je pense qu'un JT... en contention pour la victoire, c'est tout ce dont on a.
Il s'est fait comme une spécialité du PGA Championship, hein.
Oui, à se demander pourquoi, en effet, ça lui réussit mieux. Il l'a gagné deux fois, mais tu vois, quand tu vois il y a une sorte de résilience quoi, chez JD, parce que son copain Jordan Spieth, il en met plus une. Chaque fois, il fait un bon tour de temps en temps.
Comme le mannequin.
Lui, j'ai l'impression que il se passe quelque chose et qu'il va peut-être, je sais pas, revenir. Voilà, c'est un mec dont le golf a besoin. Voilà.
Ok, on va passer à la dernière histoire, si tu peux la rappeler pour tous les auditeurs qui n'ont pas suivi.
Ouais.
Ce Hugo, désormais connu, qui n'était pas connu avant et maintenant qui commence à être connu pour une petite
Hugo. Et en plus des Hugo qui sont en retard, moi ça me touche beaucoup parce que moi je suis en retard et que Hugo c'est un très beau prénom. J'ai envie de vous parler de Garrick Hugo. Alors Garrick Hugo c'est quand même c'est pas n'importe quel pimpin lambda, c'est quand même un gars qui a gagné 3 fois sur le DP, c'est un Sudaf de 26 ans. Qui a un look, et en plus qui a un look un peu à la Cameron Smith, un peu les cheveux dans tous les sens, la casquette un peu de travers et tout, un peu le mec cool. Mais là au PGA Championship, Garrick, il était un poil trop cool quoi, parce que c'est un des rares pros qui s'est pris 2 coups de pénalité avant même d'avoir tapé un seul coup dans sa journée. Il est arrivé à la bourre et ça n'arrive jamais, enfin rarement. Il y a une seule occurrence que j'ai relevé depuis les 20 dernières années, c'est aussi au PGA Championship, c'était un Américain qui s'appelle David Lipsky qui est aussi arrivé à la bourre et qui s'est pris 2 coups de pénalité. Mais ce qu'a fait Garrick Hugo dans cette journée-là, c'est d'arriver à 7h18 et 30 secondes, donc pas à 7h18, donc pas à l'heure, mais il était à la bourre, et d'oser dire, non mais attends, 7h18 et 30 secondes, t'étais quand même encore un peu à l'heure, quoi. Enfin,
c'était 7h18 son départ.
C'était 7h18, il était sur zone à 7h18 et 30 secondes.
Les mecs avaient déjà tapé, c'est-à-dire que les deux joueurs avec lesquels il jouait avaient déjà tapé. S'il était arrivé, s'il était arrivé entre les deux joueurs, je pense que là, c'était compliqué de lui mettre...
En fait, non, parce que la règle, c'est vraiment, tu dois être sur zone à partir de...
Premier mec qui tape.
Ouais, même si c'est pas à toi de jouer, ou même si c'est à toi de jouer en premier au caucus. Bon, il s'est pris 2 coups de pénalité.
Généralement, ils arrivent à quelle heure?
7h15 avant, 5-6 minutes avant, voilà. T'as le temps, tu prends tes trucs, tu échanges 2-3 banalités, tu prends tes bananes et tu tapes ton coup. Moi, ce qui m'a plu, c'est un, la réaction du bonhomme, parce qu'il fait quand même 69 avec ses 2 coups de pénalité, donc ça veut dire que... Il a passé 2 coups de pénalité, il est quasiment en tête du tournoi d'entrée. Et malheureusement, ce qui m'embête un peu pour lui, c'est qu'il rate le cut d'un coup. Mmh. Et ce qui est doublement embêtant, c'est que ce bonhomme-là, à l'époque du début du PGA, il était 85e mondial et que ce genre de passage de cut, c'est pas anodin pour lui, tu vois. C'est quand même un jeune joueur et c'est quand même des trucs qui peuvent potentiellement coûter à la fin d'une saison... 2-3 trucs un peu débiles. Donc,
déjà de l'argent. Et
de
des
fait,
points.
Et donc des points.
Un classement.
Et moi, c'est ça qui m'embêtouille, à la fois que je trouve très... très marrant, parce que moi, les mecs, tout le temps à l'heure, ça m'ennuie, pour pas dire autre chose. Moi, je suis tout le temps à la bourre, personnellement. Donc voilà, c'est une espèce de mode de vie. Mais ce qui m'embête, c'est que voilà, normalement, ce genre de professionnel-là, ça n'existe pas. Et bien pourtant, si, Garrick Hugo nous l'a prouvé.
Bah, c'est quand même hallucinant. C'est comme si t'arrives à la bourre pour ton premier jour de taf, quoi. C'est quand même hallucinant. Les Japonais, ils ont un concept, ça s'appelle le Yutori, je crois. C'est le fait de partir en avance pour pouvoir profiter d'avoir le temps et de ne pas avoir à se dépêcher, tu vois.
Et les Suisses aussi ont un autre principe, c'est que quand t'es à l'heure, t'es déjà en retard. Ouais, voilà. Et ça marche pas mal aussi.
Tu parlais de partir en avance, moi ça m'arrive beaucoup au boulot.
Ouais.
Mais je suis rarement récompensé pour le côté je pars en avance. Mais bon, voilà ce que l'on pouvait dire en tout cas sur cette histoire qui était, c'est vrai, tu l'as dit, cocasse et intéressante à relever dans le Practice RMC. Un événement cette semaine à Reims pour terminer cet épisode. Les amis, on voulait vous parler dans le Practice RMC. C'est mercredi et jeudi, il y aura la 3e édition de la Green de Star. Je vous donne quelques noms des grands champions, ex-grands champions qui vont y participer. Michel Platini, Laurent Blanc, Alain Roche, Antoine Camboire, Sonny Anderson, pas mal de footballeurs aussi, des acteurs comme Eric Judor, beaucoup d'autres. Une compétition amicale à but caritatif et social. Le boss de l'événement, ancien footballeur professionnel, Bruno Blachon est avec nous. Salut Bruno.
Salut.
Bonjour Bruno. Merci d'être avec nous. 3e édition, c'est vrai que c'est une compétition où c'est vrai que pour pouvoir en parler comme ça et aussi avoir des relais médiatiques, il faut aussi attirer des stars. C'est facile d'attirer des anciens footballeurs, des anciens footballeurs de légende. T'as le carnet d'adresses pour ça de toute façon, Bruno.
Oui, mais je vais t'expliquer en fait ce qui se passe, c'est que j'ai organisé, dès que j'ai arrêté, j'étais entré aux variétés en 96, j'ai connu Michel Platini là-bas, on est devenus copains puis amis. Et en fait, j'ai organisé pendant 17 ans sa compète, la Platoche Cup, qui était... voilà, il invitait ses potes, j'invitais les miens, les sociétés contentes, elles jouaient avec des gens un peu connus. On faisait le tour de Paris, les plus beaux golfs. Il était à l'époque membre à la Boulie. Et puis voilà, on a fait ça. Quand il est passé président de l'UEFA, il a dit j'arrête. Et puis du coup, moi, j'ai continué. Et puis là, il a décidé, il y a 3 ans, il m'a dit, bah, fais un truc à Reims, je viendrai chaque année. Et voilà, c'est la 3e édition, c'est la plus belle. Parce qu'en fait, elle est jumelée avec les 100 ans du circuit de Gueux, qui est un ancien circuit de Formule 1. Le premier Grand Prix de Formule 1 en France était ici, c'est Fangio qui avait gagné. Voilà, donc c'est plein d'histoires. Et d'ailleurs, on attend des milliers de personnes le mercredi pour la parade avec les stars. Et le lendemain, ça sera beaucoup plus confidentiel. Il y a aussi des enfants, l'hôpital américain, etc., qui sont là. Et évidemment, tous ces grands champions sont le golfe de Gueux.
Ok, rassure-moi, tous les grands sportifs, là, ils ne vont pas forcément être dans les voitures. Tu ne vas pas les essayer sur le circuit ici? Ils vont tous faire un tour?
Non, en fait, ben voilà, je vais te donner un exemple. Candeloro, ben, il va venir avec une Harley Davidson de la police américaine avec les sirènes. Et la parade, elle va commencer. Ah non, lui, il est sur une. Ah oui, extraordinaire. Il est sur une tondeuse John Deere.
Ah bah oui.
On le connaît,
Philippe.
À ses collecteurs, elle est prête. Elle sera prête, la tondeuse, mercredi en début d'après-midi. Et comme ça, quand la parade arrive, eh ben, il va ouvrir la parade sur la tondeuse. Voilà.
Et tu le sens que les anciens sportifs, là, de jouer au golf, c'est vraiment ce qu'il est. Alors, c'est aussi pour une bonne œuvre, hein, il faut toujours le rappeler. Mais ils adorent se retrouver au golf?
Ouais, franchement, oui. Enfin, moi, je connais très bien Laurent, Antoine, Camboaré, Michel et tout. C'est toujours des gagnants. Hein. Des fois, le swing, il n'est pas là, mais ce sont des vainqueurs, ce sont des gagnants, ils ne lâchent rien. Ils trichent quand il faut et trucs. Ah oui, ils sont encore dedans.
Mais on en connaît ici, hein, notamment Denis Charvet, on le connaît parfaitement. On sait qu'il a pu tricher avec son copain Yannick Noah lors de quelques compétitions. Sur cet événement, est-ce qu'il y a d'autres choses à nous annoncer, des petites surprises? Parce que tu l'as dit, il y aura beaucoup de personnes qui pourront admirer les ex-grands champions.
Oui, en dehors de ça, le mercredi, donc la veille du golf, et lui, beaucoup plus privé, on va avoir une première. Écoute bien, il n'y a pas d'eau ni d'électricité sur ce circuit. Et on a trouvé une société d'ingénierie, 19 ingénieurs, et ils vont mettre des voitures électriques en série et ils vont éclairer toute la journée, la nuit, les enfants qui vont faire du sport, les stars avec leur parade et la soirée avec feu d'artifice. Tout ça avec des voitures électriques en série, ça sera une première en France.
Bon, bah c'est parfait. Bah écoute, on suivra ça avec attention. Et merci beaucoup, Bruno, d'être venu nous voir. On s'est connus à une époque, oui, où je travaillais un peu à Canal+, et où toi, tu étais évidemment là, Bruno Blachon. Donc ça me fait plaisir d'entendre ta voix. Et sache que l'année prochaine, pour la 4e édition, s'il y en a une, et on l'espère évidemment, on organisera une petite équipe du Practice RMC. Tu vas voir ce que ça donne, le Practice RMC.
J'ai proposé à Gilbert Bribois et à Paul Vecchio que vous montiez une équipe. Bon, voilà, ils ont abandonné en chemin, ils ont vu la concurrence, ils disent non, pas cette année.
Ouais, ouais, mais
nous, on vient pour gagner.
Ouais,
moi,
alors là, ouais.
Ouais.
Ouais, le problème, c'est
que
quoi,
là, t'as pas choisi les meilleurs pour gagner. Hein.
Oui. Oh, mais quand vous voulez, les amis, quand vous voulez.
Bon, en tout cas, merci. Ça s'appelle la Green de Star. C'est la 3e édition. C'est organisé par Bruno Blachon. Donc voilà, c'est à Reims, si vous voulez aller voir, notamment, on cite souvent Michel Platini, mais bon, c'est le nom le plus connu, mais Laurent Blanc, Antoine Camboiré, La Roche, Sonny Anderson et tant d'autres. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir été avec nous dans le Practice RMC, et puis nous sommes dans les bonnes œuvres, donc c'est important d'en parler. Sachez que demain également, mardi 19 mai, au golf Robert Hersant, la 35e édition du T-Break, organisée depuis plus de 3 décennies par Véronique Chaplin, une compétition pour l'association SOS Gazelle. Une vente aux enchères aura lieu après le tournoi, vente de maillots, d'objets en tout genre. La recette permettra de financer des scolarités, des activités sport et santé pour les enfants en France, au Maroc ou au Sénégal. Je devais faire équipe
avec moi.
Avec toi, oui, avec toi, Simon Dutin, et c'est pas possible. Pourquoi?
Il me manque un mollet, le droit, actuellement.
Okay. Voilà. Non, parce que moi aussi, je fais des bonnes œuvres. Je joue avec Simon.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. J'espère qu'on pourra refaire ça ensemble, les copains, mais je ne sais pas quand.
Je ne sais pas ce qu'a cette équipe du Practice RMC, que des éclopés en ce moment, parce que je voulais monter une équipe, il n'y a personne de dispo. Quoi.
Ça va, bah, sinon, accessoirement, on a juste un métier.
Ah oui, vous avez un métier et vous êtes payé pour ce que vous faites? Parfois.
Je crois que oui, parfois, t'as raison.
C'est fou. Alors, Denis Charvet, on en parlait, c'est le parrain de la 35e édition du tie-break qui aura donc lieu demain, mardi. Beaucoup de champions seront présents. Je parlais d'Yannick Noah, Antoine Camboire sera là, Bruno Solo. Bref, vous pouvez aussi admirer des stars. C'est au golf Robert Hersant. Merci beaucoup les copains pour ce numéro du Practice RMC. On se retrouve dès la semaine prochaine. Vous savez de qui on va parler ? Non, pas de Rory, hein, promis. On va parler de Bryson DeChambeau. Parce qu'il voudrait, si ça s'arrête le livre, aller sur YouTube. Voilà, et faire quelques tournois comme ça. Est-ce qu'il est en train de se perdre ? Est-ce qu'on est en train de perdre le bison DeChambeau ? On se posera la question. Et puis préparez-vous bien, parce qu'on sera à mi-saison. J'ai un petit quiz à vous faire pour voir si vraiment vous suivez le golf. Ou les journées de Ligue 1 ou Nantes qui descendent en Ligue 2. Ok ? On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bon golf à tous.
Salut.
Merci.
Le Practice RMC.